France Inter.
L'auteur des romans « L'absolue perfection du crime », « Paris-Brest » et « Article 353 du Code pénal » fait paraître au toujours aussi bien habillé édition de minuit un ouvrage contemplatif fait de fragments et pensées sur la géographie intime, les admirations, l'amitié, l'écriture, la mélancolie, le temps qui passe et le vocabulaire. Tanguy Vielle est longtemps passé par le cinéma pour accéder au réel et son inquiétude l'éloignait de la contemplation. Plus apaisé, il relate son évolution mentale et littéraire dans le livre Vivarium, qui est normalement le nom des espaces vitrés aménagés pour conserver et montrer de petits animaux vivants, insectes, reptiles, en reconstituant leur milieu naturel. Vivarium est aussi le nom d'un film d'horreur sorti en 2019, je le dis bien que cela manque de pertinence, mais mon invité opine du chef. Nous parlerons en revanche aussi de cinéma dans l'heure qui vient, Tanguy Vielle étant aussi scénariste. Il a participé à l'écriture du film L'Innocent de Louis Garrel et est notamment connu pour avoir raconté l'intégralité d'un chef-d'œuvre du 7e art dans son livre Cinéma en 99. Il a aussi raconté la vie de Jésus qui reparaît en poche. Peut-être aurons-nous le temps de l'aborder. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Tanguy Vielle.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai fait un atelier avec des élèves et donc la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est pourvu qu'ils arrivent à écrire quelques lignes avant la fin de l'heure.
C'était un atelier d'écriture ?
Ouais, c'était un atelier d'écriture. Ouais.
Et quel était le contenu, l'exercice ? Ben,
en fait, c'est assez compliqué, mais en gros, ce que je leur demande, c'est d'essayer justement, parce que je suis dans mon petit vivarium, de leur faire prendre conscience de ce qu'il y a autour d'eux et de les faire décrire en fait ce qui les entoure.
Donc là, par exemple, si vous donniez une consigne d'écriture aux auditeurs, vous leur diriez, décrivez ce qu'il y a autour de vous ?
Non, pas autour de soi. J'essaie plutôt d'isoler un moment, voire de sanctuariser un moment dans votre propre petite boîte mentale qui correspond à un espace qui, justement, mérite un peu écriture. Parce qu'il ne me semble pas que tous les lieux et tous les instants méritent écriture.
Votre ouvrage Vivarium est-il une continuation d'Iceberg ?
Alors, une continuation d'Iceberg. Iceberg, c'était une série d'essais, on peut dire peut-être plus, j'allais dire plus cultivée, plus théorique, en tout cas une promenade dans la bibliothèque. L'autre jour, je suis allé dans une librairie et le libraire, pour me présenter, a comparé Iceberg avec Vivarium et il a dit, alors peut-être qu'avec Iceberg, on avait affaire à un écrivain penseur et avec Vivarium, on aurait affaire à un écrivain pensif. J'ai trouvé ça très beau, et bon, après, les mots sont forts quand même, moi je ne me pense pas comme un penseur, mais c'est vrai que Vivarium est une sorte de continuité peut-être plus sensible, j'allais dire plus détendue, plus personnelle aussi, enfin, Iceberg était personnel bien sûr, mais le surmoi est moins fort dans Vivarium, je me sens plus libre.
Tanguy Vielle, vous évoquez une réconciliation intime et personnelle avec la vie, avec le monde, et ces deux ouvrages, Iceberg et Vivarium, dressent des autoportraits chacun à leur manière. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une réconciliation avec vous-même, puisque vous acceptez enfin de vous regarder, et comme l'encourageait Rilke, de descendre en vous-même ?
Ben, ce qui est vrai, c'est que le jeu de Vivarium, le sujet, c'est, je peux l'assumer comme étant moi, alors que c'est vrai que quand je fais du roman, évidemment, même si j'écris mes romans à la première personne, j'utilise un masque, et je sens que c'est pas la même matière qui consiste derrière le masque, ou alors qui se montre à nu dans Vivarium. Et de ce point de vue-là, pour être à nu, ça n'engage que moi de dire ça, mais il fallait sans doute que je sois un peu plus, enfin vous avez employé le terme, oui, réconcilié avec moi-même, plus apaisé, mais aussi que peut-être plus réconcilié avec le monde, c'est-à-dire plus à même de l'accueillir en tant que, je dirais presque de manière organique, comme un animal qui accueillerait ce qui l'entoure.
Vous dites pouvoir accepter aujourd'hui l'éclat, la discontinuité, le divers, ça ressemble fort à de la mort Fatih, mais avez-vous peur de l'ordre des choses et de ce qui existe ?
Non, mais en revanche, j'avais longtemps eu besoin d'ordre. Je pense que vouloir faire du roman, c'est quand même une manière d'essayer de mettre les choses en ordre. C'est aussi, je crois, ce que j'ai beaucoup demandé au cinéma, de mettre les choses en ordre et en harmonie aussi, bien sûr, mais pour lutter contre une discontinuité, un sentiment d'éclatement, une ignorance qui fait que c'est difficile de se promener dans l'existence quand on n'est pas très bien constitué, quand on n'est pas solide. Et c'est cette solidité qu'au fil des années, finalement, quand on l'acquiert doucement, et provisoirement peut-être, en fait permet paradoxalement de ensuite se promener et d'assumer d'être de cueillir des fragments sur les bords du chemin, pour le dire poétiquement.
Comment est-ce que vous pensez qu'on acquiert cette solidité?
Ça, c'est une grande question. Moi, il me semble que je le dois beaucoup à l'écriture. C'est-à-dire qu'à force, peut-être, d'avoir essayé de mettre en scène, de fabriquer du récit, de créer des lignes, finalement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui sédimente en soi et qui donne l'impression qu'on a le droit. Mais peut-être, c'est simplement aussi l'âge. Il y a peut-être quelque chose de biologique dans le fait de déposer, de sédimenter de la matière et de plus être en train de courir après tout. On est, me semble, même comme en tant qu'être social, on est moins dans l'urgence à 50 ans qu'à 30.
Il y a quelque chose de très beau quand même dans l'idée de sédimenter à l'intérieur de soi, puisque là je vous imagine Tanguy Viel comme un maçon qui se fortifierait de l'intérieur, c'est-à-dire qui construit une forteresse mais intérieure.
Oui, c'est vrai, à ceci près que la forteresse, le maçonnage, cette matière très très rigide, c'est ce que j'avais le sentiment de faire quand je faisais du roman, de construire des maisons avec de la pierre bien dure, et peut-être avec aussi quelque chose qui était comme une manière de se protéger du monde. Et donc peut-être à cette métaphore du maçon,
de la consolidation.
J'ai envie de penser que dans Vivarium, il y a quelque chose qui relève plus du, j'allais dire, du tisserand. Enfin,
oui,
ce sont des fragments, ils sont pas tissés, mais il y a quelque chose d'un peu plus, c'est comme des voilages un peu qui, il y a plus, l'air rentre plus, et j'espère que les textes eux-mêmes flottent un peu dans une certaine brise. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui de fabriquer une forteresse, en fait. Peut-être que justement, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui consiste d'assez solide pour pouvoir accueillir avec tranquillité et l'air au sens le vent.
Oui, j'aurais dû parler de consolidation intérieure plutôt. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on ressent ce voile, on va en parler dans quelques instants. Gwendoline, le morceau Pignata.
Grand Canal. Eva Bester. sur France Inter.
Tanguy Viel, vous avez appelé votre dernier ouvrage Vivarium. Vous considérez-vous comme un animal que vous observez? Et si oui, plutôt un reptile ou un insecte?
Moi, j'ai l'impression de changer de forme à chaque paragraphe, en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est à cette idée d'observation que je dois le titre du livre. Mais aussi l'idée que, au fond... un des titres auxquels j'avais pensé, c'était biotope, mais je trouve que c'est moins joli, c'est moins poétique. Mais il y avait ce fait de dire, au fond, bon, certes, on pense, on a comme ça une sorte d'élaboration par rapport aux animaux, mais tout ça, c'est quand même une matière très vivante qui me semble très organique, en fait, que la pensée. En tant que, si on dit la pensée au sens large, c'est-à-dire, on pourrait employer le mot d'émotion, mais dedans, il y a les sensations, il y a les souvenirs. Donc tout cet espace sur lequel... on repose et qui est très, très mou, très, très flou. Et on essaye de construire à l'intérieur des petites indurations, des petites boîtes. Donc c'est ça qui, moi, me plaisait dans l'idée de Vivarium. C'était de voir vivre, évoluer des états, des instants, des inquiétudes. Enfin, tout ce qui est cette matière avant même qu'elle soit nommée, justement. Et au fond, l'avantage du Vivarium, c'est qu'il est à la fois chaque petite boîte vitrée, comme vous dites, et dans laquelle il y a ou des tortues, ou des insectes, ou des serpents, ou des choses... Enfin, je pensais pas forcément comme des choses, d'ailleurs, péjoratives. On pense aux serpents, là, c'est pas forcément des figures comme ça. Mais c'est, par contre, ce qui est reptilien, c'est que ça glisse tout le temps. Et donc, la boîte, elle vient un peu arrêter ce qui glisse dans la pensée. Et puis, le vivarium, c'est aussi l'espace. C'est la boîte des boîtes. C'est-à-dire qu'au fond, comme l'aquarium, vous dites, dans un aquarium, il y a des aquariums. Donc là, dans le vivarium, il y a des vivariums. C'est les poupées gigognes, un peu.
Alors, moi, je vais faire aussi une transition en forme de poupée gigogne. Je vais prendre le mot espace que vous venez de prononcer, Tanguy Viel, et vous parler de l'espace géographique, puisque vous semblez apprécier les typologies. L'eau n'est jamais loin quand vous parlez de l'écriture. Dans Iceberg, la première phrase, c'est « Les vrais livres ont quelque chose de marin ». Vous définissez le roman comme cascade, l'essai comme lac, où la pensée revient à la surface. Vos premiers romans étaient décrits par vous comme des romans fleuves. Quel est votre rapport à la chose aquatique ?
Alors, elle est peut-être très, très personnelle. C'est-à-dire que j'ai grandi d'abord à Brest, et donc avec la mer devant moi pendant mes 12 premières années, et puis ensuite, plus tard, et depuis, puisque encore aujourd'hui, j'ai toujours, pratiquement toujours, habité au bord de la Loire. Dans des endroits très variés, ça va de Sancerre à Nantes, mais...
Orléans,
Tours, quel que soit le moment de ma vie, je me suis toujours trouvé près d'un fleuve ou près d'un océan. Alors sans doute que ça finit par infuser, hein, voilà. Là aussi, puisque même je pense que le jeu de nos métaphores, quand on écrit, est quand même très lié à notre expérience. Et après, bien sûr, l'eau, ça a cette vertu de devenir... en fait, ça prend tellement de formes qu'on peut avec elle faire peut-être plus de métaphores qu'avec d'autres sujets, d'autres objets. Hein.
Justement, votre œuvre est émaillée d'allusions à différents lieux, différentes villes. Vos romans sont souvent ancrés dans des lieux spécifiques. La Bretagne, par exemple, dans Paris-Brest, la fille qu'on appelle, article 353 du Code pénal. Ou Détroit, aux États-Unis, dans la disparition de Jim Sullivan. Pensez-vous qu'un environnement influence et modifie l'individu ?
Moi, j'ai l'impression que c'est par ça, par les lieux, par l'espace, que j'ai commencé tous mes livres. C'est-à-dire en déposant, avant même d'avoir une intrigue... une question, un sujet qui n'était pas encore clair dans des lieux. Et c'est quand j'ai commencé à voir les lieux, que ce soit la Bretagne pour un certain nombre d'entre eux, ou pourquoi pas les États-Unis, c'est là que se dessine pratiquement la figure du personnage, comme si un personnage était au fond une sorte d'amibe qui d'éponge constituée entièrement par son environnement. Et c'est comme ça que aussi j'ai l'impression d'avoir fait Vivarium, puisque c'est aussi un peu une sorte d'autoportrait au sens... puisque je parlais d'arpenter un peu les couloirs pas forcément très, très clairs de la pensée. La pensée, c'est beaucoup la mémoire, quand même. Donc, dedans, évidemment, il y a une part qui est faite à la Bretagne, au paysage de mer, une part qui est faite au paysage de Loire, une part qui est faite aux villes que j'ai visitées. C'est comme si, en fait, à un moment, quand on essaye de dire... parce que derrière, il y a presque la question « qui je suis ?» ou comme si j'essayais de faire le tour du propriétaire. Et au fond, pour se demander qui on est, à part l'espace, je ne vois pas trop quel repère on a, qu'est-ce qu'on a d'autre, en fait, pour pouvoir incarner sa propre identité, la mirer dans le dehors. C'est forcément des lieux, en fait. Et c'est les lieux aussi qui incarnent le temps, qui incarnent le vécu, qui incarnent... qui essayent de saisir, par fragments, quelque chose de soi, et si possible, d'un soi partageable. C'est-à-dire pas un soi... c'est pas, au fond... je me dis, c'est pas moi juste pour être moi, c'est pour essayer de partager l'expérience même qu'on fait tous de cette, ce temps qui fuit, qui ressemble à de l'eau peut-être, et que les lieux, par endroits, arrivent à retenir, ou dans lesquels ça se dépose un peu.
Vous citez le philosophe allemand Hermann Schmidt, qui a un titre magnifique, « Les sentiments comme atmosphère ».
Oui.
Vous pouvez développer un peu, parce que c'est une très jolie idée.
Ben, son idée, c'est qu'en fait, au fond, il accorde peu de crédit à l'idée que nos sentiments seraient produits par nous-mêmes, à l'intérieur de nous, mais qu'en fait, ils sont liés aux atmosphères de ce qui nous environne. Il prend des exemples très simples, il dit, vous arrivez tout joyeux, vous rentrez dans une pièce où les gens sont... Et en fait, c'est un enterrement. Et ben vous devenez triste, c'est-à-dire ça peut prendre cette forme très bête comme ça, mais en fait ça veut dire qu'à tout moment tout agit sur nous, sur nos sens, sur nos humeurs, et ce tout c'est à la fois, je pense, la météo qui est un élément évidemment capital, mais aussi l'environnement au sens urbanisme, les gens qu'on croise, etc. Donc c'est l'atmosphère, ça peut prendre toutes les formes. Simplement après, quand ça se dépose en nous, ça crée des zones qu'on a du mal à nommer. Et donc c'est un peu le travail de l'écriture aussi, d'essayer de déplier ces atmosphères en tant que, peu importe qu'elles soient dehors ou dedans, qu'elles soient autour de nous, qu'elles soient en nous, parce qu'au fond c'est la même chose, c'est même l'endroit où ça se rencontre, l'endroit où ça glisse, qu'il y a quelque chose qui peut se dire et se partager aussi.
Vous considérez-vous comme perméable à l'atmosphère?
Ah mais totalement, mais déjà rien qu'au temps qu'il fait, tous les jours, comme tout le monde.
Ça vous affecte?
Bien sûr, ça m'affecte, c'est même
fortement.
Le mot, je pense que c'est le bon mot, c'est ça, c'est qu'en fait ça crée des affects, et qu'à la fin, quand on reprend l'ensemble de notre existence, ce qui est valable à l'échelle de la manière dont on se lève le matin et dont on regarde s'il pleut ou s'il fait beau, mais c'est cette couleur intérieure en fait que ça donne, elle est valable aussi à l'échelle de la durée, c'est-à-dire qu'au fond une vie elle se constitue d'une série, un feuilleté en fait d'atmosphères dont certains sont peut-être plus prégnants que d'autres et qui finissent par dessiner aussi un caractère.
C'est comme ça que vous choisissez les villes où vous vivez ?
Oui, il y a plein de paramètres, mais les villes où je vais, j'essaye en fait, plus ça va, plus j'essaye d'aller dans les endroits où je sens que l'atmosphère va me permettre notamment d'écrire, mais où elle va... Parce qu'au bout d'un moment, ça fait miroir, c'est-à-dire au fond, au début, vous êtes constitué par des lieux, et puis une fois que vous êtes un peu constitué, vous allez vers ces lieux, et c'est vous qui décidez. C'est ça peut-être la différence aussi entre l'enfant et l'adulte, c'est qu'on a quand même une certaine possibilité de décision.
April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Summer surprised us.
C'est le poème The Wasteland, la Terre vaine, lu par son auteur T.S. Eliot en 1935. T.S. Eliot que vous citez, Tanguy Viel, dans Vivarium. Je vais lire l'extrait. Je sais par expérience personnelle que vers le milieu de sa vie, un homme se trouve en présence de trois choix. Ne plus écrire du tout, se répéter avec peut-être un degré toujours plus grand de virtuosité ou, par un effort de la pensée, s'adapter à cet âge moyen et trouver une autre façon de travailler. Et vous dites juste après que vous aimeriez lui donner raison.
Oui, parce que sans doute que pour me lancer dans l'expérience et l'écriture de quelque chose comme Vivarium, il fallait quand même que je prenne une décision provisoire, mais qui était de dire, bon, voilà, j'avais terminé un roman, ok, je recherche encore un sujet, je refais un roman, et en même temps quelque chose était insatisfaisant pour moi, je cherchais une autre manière d'être au monde, donc une autre manière d'écrire. On parlait tout à l'heure de l'effet un peu clos du roman qui vous met dans un état qui, en fait, vous êtes enfermé dans votre bureau pendant 6 heures par jour, et ça crée vous créez un monde, et ce monde, il est un peu, même s'il est hanté par le monde extérieur, il est quand même contre le monde extérieur. Et moi, je cherchais quelque chose où l'air circulait entre l'écriture et la vie, si je puis dire, et je sentais que j'ai eu ce sentiment que je risquais de me répéter, en effet. Et donc j'ai cherché une autre manière d'être aussi plus... en contact avec le dehors, mais je sais qu'aussi cette phrase-là de T.S. Eliot sur l'écriture, chaque fois que je la lis à un ami écrivain, il me dit « Ah, tu me l'envoies par SMS, tout de suite ». C'est-à-dire que ça marche sur tout le monde, cette peur d'abord de se répéter, et cette envie aussi de trouver une autre forme. Et je crois que ce que dit Eliot est assez universel pour les écrivains. Après, on veut toujours ce qu'on n'est pas.
Qu'est-ce que vous aimeriez avoir que vous n'avez pas?
Non, mais pendant que j'étais romancier, je voulais toujours être poète. Et si maintenant je fais... c'est pas de la poésie, Vivarium, mais on s'en rapproche, en tout cas. Maintenant, je me dis, tiens, en fait, quand même, c'était bien de faire du roman. Donc, en fait, maintenant, je commence à accepter aussi. Et ça, c'est difficile au début, c'est d'être écrivain au pluriel. Mais ça, c'est difficile parce que très vite, on vous assigne vous-même, enfin, on s'assigne soi-même à une forme. Et déjà, vous savez faire quelque chose, par exemple, du roman, donc vous dites, bah, je suis romancier. Et il faut s'autoriser à quelque chose pour accepter de tenter une autre forme. Alors, surtout quand elle est vraiment à l'opposé, puisque, encore, si j'écrivais du théâtre, bon, ça reste des formes narratives, mais là, la poésie, on peut dire, c'est un peu le contraire du roman. Le roman, c'est l'inscription dans la durée, alors que la poésie, c'est l'inscription dans l'instant. C'est deux manières aussi, je le disais, d'être aux aguets ou pas avec le monde. Voilà.
Dans vos romans, il y a vous changez beaucoup de langage. Il y a des monologues de personnages aux classes sociales et culturelles différentes. Dans vos essais, il y a des tournures très sophistiquées. À qui ressemblez-vous le plus, Tanguy Viel, à vos personnages ou à Tanguy Viel, l'essayiste, celui qui écrit « Il n'eût pas été absurde ». L'utilisez-vous dans la vie parlée, il n'eût pas été absurde?
Non, c'est vrai que Vivarium est un livre très écrit, mais parce que l'expérience que je cherche à relater, enfin les expériences, ces instants de pensée, ces émotions méditées, exigent pour trouver leur intensité, leur justesse, un degré de langage que sans doute le roman n'a pas systématiquement besoin. Et c'est vrai que le roman aussi, puisque j'utilisais des narrateurs qui étaient des personnages, Monsieur Tout-le-Monde, si je puis dire, ils risquaient pas d'avoir une langue aussi écrite. Là, j'ai eu besoin de pousser loin les curseurs du vocabulaire, de la syntaxe. Il y avait quelque chose qui le demandait dans l'envie de saisir et de conserver des intensités d'existence.
Vous écrivez « Nous sommes les otages du monde parlé » et c'est un combat d'accéder à une diction neuve des phénomènes. Vous l'avez un peu évoqué il y a quelques instants, mais est-ce que vous arrivez à vous surprendre dans votre façon de dire ou vous vous ressemblez trop ?
Non, je me surprends régulièrement et surtout je me surprends quand je me relis plusieurs semaines ou plusieurs mois après, par exemple, sur un paragraphe, parce que l'instant de l'écriture a ceci de particulier qu'il crée... Enfin, qu'il invente presque l'expérience vécue. Enfin, il la réinvente. Et il l'augmente. Et surtout, moi, je vois bien que, par exemple, les métaphores, que c'est la chose que je préfère, au fond, en littérature. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui fait des métaphores. Je sais qu'il y a des écrivains qui font pas de métaphores et qui peuvent être formidables, mais pour moi, c'est une chose merveilleuse. C'est vraiment...
Oui, Flaubert c'est une manière en fait peu.
Flaubert en fait peu, ouais, c'est vrai. Mais il en fait.
Oui, il en fait.
Pour moi, c'est ça l'invention de l'écriture, c'est désigner la chose en disant autre chose, et donc l'augmenter d'une chose qu'elle n'est pas, pour essayer de la dire mieux. C'est quand même beau comme tentative. Je ne sais plus pourquoi je parlais des métaphores, mais donc moi, en tout cas, mon plaisir, et je sais qu'une bonne partie des métaphores adviennent dans l'écriture, c'est-à-dire que je ne peux pas les prévoir à l'avance. Elles s'écrivent, tout d'un coup, la phrase s'écrit, je cherche quelque chose, et l'image vient. Alors, celui-là, cet écrivain-là, c'est celui peut-être que je sens le plus proche de moi, parce que c'est celui qui me surprend moi-même.
Qu'avez-vous essayé de capturer sans y parvenir, jusqu'à présent ?
Ce que je n'ai pas capturé, je ne l'ai pas capturé. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas écrit, si, il y a plein de choses qui me résistent. Il y a des villes qui me résistent, il y a des atmosphères qui me résistent. Pour l'instant, par exemple, Londres me résiste.
Ah oui ?
Ouais, bon, pourquoi Londres, je ne sais pas. Paris me résiste. Je n'arrive pas à saisir Paris. Dans trois pages, où tout d'un coup, j'aurai le sentiment de faire le tour de mon lien avec cette ville, de lui trouver la couleur idéale, et donc les métaphores qui viennent avec. Parce qu'il faut aussi, faut toujours un point d'entrée, il faut une image qui ensuite va drainer les autres images. C'est un peu un fil d'Ariane qu'il faut ressaisir à chaque fois. Et que ce soit pour une émotion, pour un souvenir, que ce soit pour une ville, peu importe, une pensée même une théorie, c'est la même chose.
Dans Vivarium, Tanguy Viel, vous citez Walter Benjamin, et il y a une citation qui résume assez bien la problématique qu'il y a dans ce double mouvement intérieur et extérieur permanent, quand on s'observe et qu'on observe aussi le rapport au monde. Il est impossible de supporter cette existence en flâneur parce qu'elle n'est belle et intelligible dans ses moindres détails que dans le travail.
Oui, mais là, c'est fou, c'est que Walter Benjamin, c'est le flâneur par excellence, c'est l'homme qui se promène, c'est l'homme qui fait l'apologie de la flânerie sans cesse, c'est pour ça qu'il aimait tant Baudelaire, évidemment. Mais tout d'un coup, il réalise aussi que si on se promène vraiment, qu'on fait que ça, on se dissout. Et en fait, il termine même sa réflexion en disant que le véritable flâneur est prisonnier. Donc il y a un endroit complètement paradoxal où le flâneur doit s'assigner une tâche. Et il ne peut la résoudre que dans le travail. Le travail, lui, pour Benjamin, quand il parle de ça, c'est qu'il est très content, par exemple, d'avoir des commandes. Il est très content de participer à des revues, d'avoir des endroits où incarner et enfin arrêter cette flânerie incessante, finalement pour la remettre en scène dans ces petits cadres de travail, mais sans lesquels il risquerait de se perdre complètement. Mais j'ai pris un peu acte de ce qu'il disait parce que je me suis passé des commandes aussi pour arrêter les flâneries.
À vous-même ?
Ben, je me suis dit, bon, là, ça fait 10 fois que tu vas à Rome, tu écris un texte sur Rome. Et ainsi de suite.
Oui, vous vous rendez des comptes.
Ben après, je m'oblige pendant 15 jours, 3 semaines, à essayer de faire surgir une image, une sensation qui va... Et puis ensuite, de dérouler. Après, moi, c'est des textes courts. Il s'agit de saisir en une page ou deux pages quelque chose qui soit l'expérience du vécu d'un endroit, d'une lumière, encore une fois, d'un paysage, etc. Mais c'est souvent des commandes, oui. C'est quelquefois des choses qui viennent du monde lui-même, c'est-à-dire un ravissement, qui peut aussi créer tout d'un coup l'idée de dire ça doit s'écrire. Quelquefois c'est un problème, un petit problème théorique, un petit problème de type, par exemple, sur le langage lui-même. Et puis très souvent c'est du travail, c'est-à-dire comme si je m'obligeais à me dire bon ben je peux pas. Je l'ai fait beaucoup pour les villes, ça, de me dire c'est pas possible, il faut que je le fasse. Voilà.
Est-ce que quand on est écrivain, on se dit toujours à chaque fois qu'on vit un moment, tiens, il faudrait que je le transforme en écriture. Est-ce qu'il y a des moments qui restent hors champ, hors écriture?
Bah oui, tout ne nous convoque pas, ou pas de la même manière. Sans doute qu'il y a des espaces privilégiés. Bon, par exemple, c'est vrai que dans ce livre, beaucoup de choses sont liées, on l'a dit déjà, mais à l'atmosphère, à la météo, au paysage, parce que peut-être que, à la fois dans la vie que je mène, mais aussi la trivialité du quotidien n'appelle pas forcément de la même manière. Après, par exemple, je me dis un jour, écrire un texte sur la maison de la radio, ça me plairait. Parce que c'est une maison qui, on fait une expérience folle quand on se promène dans ces couloirs ronds, etc. Et trouver la formule, parce que c'est ça en fait, il s'agit de trouver la formule, au sens de la formule magique. C'est quelle phrase, quel paragraphe pourrait rendre, et avec évidemment une adresse cachée qui est celle de tous les gens qui ont fait la même expérience que vous. Alors, pour la maison de la radio, c'est limité à quelques milliers de personnes. Quand il s'agit juste d'un bord de Loire ou d'un fleuve en général, on peut imaginer que l'expérience est universellement partageable.
Black Keys, Beautiful People, Stay High.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Tanguy Viel, on continue d'évoquer Vivarium paru aux éditions de Minuit. Dedans, il y a cette phrase « Voilà que j'approche de mes 2500 lundis ». Et dans une interview qui date d'il y a 3 ans, vous dites « J'ai bientôt 50 ans, je suis un homme blanc aux cheveux gris, mais je me sens encore comme une fillette de 12 ans très vulnérable ». Éprouvez-vous du spleen en pensant au temps qui passe ?
Ah non, pas du tout.
Ah oui ?
Non, pas du tout. Mais peut-être parce que je suis encore cette fillette de 12 ans très vulnérable. Mais non, mais j'ai aussi la chance que mon quotidien ne se ressemble pas tout le temps. Et j'ai remarqué que plus on fait des choses variées dans l'existence, et moins le temps passe vite.
Non,
je vous en prie.
Vous imaginez le lecteur du futur, celui qui ne saura pas ce qu'est un grillon, un coiffeur et un anxiolytique. C'est un choix amusant, pourquoi ?
Je pense que j'aurais pu employer n'importe quel mot du dictionnaire, mais je ne sais pas pourquoi j'imaginais... Ce sont 3 formes de vie, en fait. La chimie, l'artisanat et la nature. Et le grillon, le coiffeur et l'anxiolytique. Et que j'imaginais comme constitutive un peu de la manière dont on habitait le monde aujourd'hui. Et donc j'avais ce sentiment un peu, quelquefois, comme on a tous en ce moment, mais un peu collapsologique, qui se dit, bon, et si, qu'est-ce que ce sera dans 500 ans, qu'est-ce qui restera de tout ça? Et peut-être que celui qui grattera la terre comme un archéologue dans 500 ans, il saura plus ce que c'est que tout ça.
En parlant de terre, vous avez appris le nom des arbres, Tanguy Viel. Quels sont vos préférés? 2 ou 3?
Je crois d'abord qu'est-ce que je préférais, les arbres ou les noms des arbres?
Ah, bah écoutez, choisissez.
Mais j'adore la Marylis.
Pour son nom?
Pour son nom, bien sûr. Et j'adore le sycomore, pour son nom aussi, évidemment. Après, je crois que l'arbre que je préfère, c'est l'érable.
Vous vous interrogez à un autre moment du livre sur le nombre de fois où vous avez prononcé dans votre vie la phrase « J'étais au collège à Sancerre ». Quelle est l'autre phrase que vous avez le plus prononcée en dehors de votre nom, date de naissance et profession, à votre avis ?
Je n'ai rien fait.
Pourquoi on vous arrête souvent non, dans la rue ?
Non, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que c'est fou comme on est engoncé, hein, comme ça, dans des énoncés que la vie normale nous oblige à dire et redire, ou par lesquels aussi on finit par s'habituer à se présenter ou à se raconter, en fait. Et c'était sans doute un des enjeux du livre aussi pour moi que d'essayer d'ouvrir ce... En fait, j'ai beaucoup pensé à un écrivain qui, je ne sais pas si c'était tant que ça, je crois, dans ce livre, c'est Francis Ponge. C'est-à-dire le sentiment que Ponge, qu'il a réussi à faire, c'est prendre les noms communs du dictionnaire et les ouvrir, mais les ouvrir à l'infini, comme s'il fallait leur redonner vie et voir à quel point ça fourmillait sous le mot qui, au fond, est usé par ses usages ou simplement par la trivialité de la vie quotidienne dans ce qu'elle nous oblige, en fait, évidemment, à converser principalement par utilité.
Je crois que c'est le seul endroit, un texte de Francis Ponge, où la théorie du complot est valide, puisqu'en fait, tout a été pensé exprès, tout a un lien, tout est vraiment trouvé et on est comme des enquêteurs, on doit voir les étymologies des mots...
Ben, on a tout intérêt à excaver, à fouiller, à remonter à l'intérieur. Ça peut être à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur du langage lui-même pour pouvoir trouver des choses neuves et finalement se rendre compte aussi que quand on dit les choses de manière neuve, elles apparaissent neuves. C'est ça, en fait, là aussi, me semble-t-il, une des forces de... Quand on rénove la langue en trouvant des nouvelles manières de dire et on rénove l'expérience vécue, mais aussi l'expérience proposée pour le futur. C'est en ce sens même qu'il y aurait... tout modestement, une certaine dimension presque politique à faire ce travail.
Tanguy Viel, vous dites que l'un des avantages de la littérature, c'est qu'il y ait permis de décrire ses tentatives, ses ratages, et même d'en obtenir rétribution. La littérature, c'est l'art des perdants flamboyants ?
Non, mais ça, c'est vrai que je me suis toujours dit ça, que même les autres arts ne peuvent pas se permettre ça, mettre en scène leur ratage. Combien de livres racontent, même combien d'écrivains mettent en scène le ratage. Alors, ils le font tellement bien que finalement, rien n'est raté. Mais il y a aussi une vraie part aussi de la littérature qui s'expose dans la plainte de ce qu'elle n'arrive pas à faire. Et je me demande quelle autre discipline au monde, dans quel domaine que ce soit, un peintre, il peut pas... Non, un musicien non plus. Enfin, oui, ce que je dis dans Vivarium, c'est comme si on imaginait qu'il y avait en athlétisme une catégorie vestiaire ou comme si on pouvait profiter de ça pour que ça soit. Et en même temps, c'est sur la scène en vrai, la scène du livre, et le lecteur peut accepter ça. Et même, il est souvent heureux de partager ça, un peu le off des choses ou les choses un peu inachevées. Pas que, heureusement d'ailleurs, mais ça fait partie de la liberté particulière de la littérature. Ouais.
Vous arrive-t-il d'éprouver la déception de Barthes, décrite dans Vivarium, Barthes affirmant « je vaux plus que ce que j'écris ».
Ah oui, ça c'est le grand drame. Je pense que c'est tout ce qui arrive. Chaque fois qu'on a envie d'écrire et qu'on n'y arrive pas, au fond derrière, il y a ce fantôme-là, d'une sorte de... on est plus grand que la chose qu'on va écrire. Enfin, on se croit plus grand que la chose qu'on va écrire. Et évidemment, on ne peut pas écrire, puisqu'on trouve que le langage, la phrase est trop petite, trop corsetée. Et donc, on se maintient dans cet état de fantasme qui est... Il y a quand même cette envie d'écrire et rien n'y répond. On est trop grand pour elle. Ça, c'est le plus grand danger, un des plus grands dangers qui gâte l'écrivain.
On découvre des auteurs dans Vivarium et notamment le poète suisse Gustave Roux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Vous citez des phrases assez jolies de lui.
Ah, mais Gustave Roux, c'est un très grand poète des années 30 à 60 en Suisse, ou peut-être 70, mais j'ai pas les dates en tête, mais et dont l'œuvre intégrale vient d'être republiée par les éditions Zoé en 4 volumes. C'est une très belle édition. Le fait qu'il soit suisse, en Suisse, il est extrêmement connu, mais c'est vrai qu'il a pas eu le peut-être l'écho qu'il aurait dû avoir. Alors, c'est pourtant le maître de Jacoté, par exemple. Et Roux lui-même était très proche de Ramu, et évidemment grand admirateur de Rilke. C'est dans cette généalogie-là qu'il faut l'inscrire. Et c'est vraiment quelqu'un qui a ce sens particulier d'être au monde de manière poétique. Sans cesse, soit par son journal, par ses poèmes, par ses critiques. C'est une œuvre difficile à décrire à l'antenne en quelques minutes, mais absolument somptueuse. C'est comme un ami qui vous accompagne.
Le mantelade. Che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità.
Mantelate de Gabriella Ferri. Je vous ai demandé un choix musical, Tanguy Viel, et vous avez dit, je propose qu'on écoute une chanson italienne puisque je rentre d'Italie.
Exactement, parce que j'ai passé l'hiver en Italie et que j'ai écouté que de la variété ou de la chanson à texte italienne. Et donc j'ai choisi celle-là parce que c'est une des plus belles sur les prisons de femmes romaines. Gabriella Ferri étant une chanteuse qui a beaucoup, beaucoup chanté Rome, très populaire en Italie. Mais bon, comme souvent, ce genre de chanteuse, ça s'exporte pas très bien. Mais je crois que cette chanson, quand même, est très belle, oui.
Première des études de Chopin par Léopold Godowski. Pourquoi ce choix, Tanguy Viel ?
Ah oui, j'ai proposé qu'on écoute quelques secondes, en effet, cette étude de Chopin, parce que, pour vous dire une chose très simple, c'est que c'est la manière dont je rêve que chaque roman que j'écris puisse s'ouvrir. Je voudrais que la première page d'un roman, un jour, voilà, soit ça, ce tourbillon dans lequel on glisse, sauf qu'à la différence de l'étude qui dure 1 minute 30, ensuite, il faut tenir 150 pages minimum.
Ce serait magnifique.
Ce serait magnifique, non ?
Oui. Ouais. Alors, en parlant de roman, vous avez choisi comme découverte pour les auditeurs, Tanguy Viel, un roman qui vient d'être republié aux éditions du Tripode, L'occasion de l'Argentin Juan José Saer, publié en 1987.
Publié en 1987 par Flammarion, à l'époque où Saer était encore vivant, puisque donc c'est écrivain argentin qui habitait en France, très grand écrivain argentin, mais finalement, toute son œuvre était publiée et puis a disparu, enfin un peu donc tombé dans l'oubli dans les années 2000, évidemment épuisé. Et là, le Tripod a décidé de rééditer tout Juan José Saer. Et L'Occasion, c'est un de ses principaux romans. Ça se passe, comme beaucoup de ses livres, dans la Pampa argentine. Là, ça se passe au 19e siècle. Et en fait, c'est une histoire très simple, c'est une histoire presque tragique. Une histoire, en fait, c'est une histoire d'un homme très jaloux qui est un peu fou et qui vit dans cet univers-là. Mais il faut vraiment lire chaque phrase parce que c'est un monde un peu avec l'épaisseur d'un Faulkner. C'est-à-dire que les hommes sont comme, là aussi, comme des sortes d'animaux sauvages, rendus à leurs pulsions. Et en fait, ces pulsions ne peuvent être rendues que par l'épaisseur de la langue. Et la langue, elle est alimentée par sans cesse l'atmosphère, les orages, la météo, le paysage. Mais faudrait, là aussi, il n'y a que la phrase qui peut répondre. Vous avez le temps de lire du Saer? Non, enfin, c'est pas là.
Moi, écoutez, je n'ai plus aucune vie hors radio, mais bien sûr, j'ai noté ce titre parce que ça a l'air. Ouais. En me renseignant dessus, ouais, je me suis dit que ça avait l'air vraiment formidable.
Ouais, c'est un livre magnifique. Mais bon, il y en a un qui est plus connu aussi de Saer, s'appelle L'Ancêtre, qui est un petit chef-d'œuvre, qui raconte comment une expédition occidentale se retrouve au milieu des Indiens au XVIe siècle. Mais, donc c'est toujours imprégné de l'histoire de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. Ce sont ses racines, des romans presque ruraux, mais dans une langue qui est très très organique, très organique.
Ça revient, organique.
Ça revient, je l'ai dit plusieurs fois.
Oui.
On a toujours un mot, on a un mot par jour, non?
Bah, peut-être.
Vous voyez, ça, ce sera un nouveau fragment qu'il faudra que j'écrive. Ça sera...
En 1953, le petit garçon du film Le Petit Fugitif, réalisé par Raymond Abrashkin, Ruth Orkin et Maurice Engel, qui raconte l'errance d'un enfant seul au milieu de la foule et des attractions de Coney Island, un film cité dans Vivarium, Tanguy Viel, et au sujet duquel un critique disait qu'il abandonnait son scénario en cours de route et que c'est de là que venait la force du film. Et vous, c'est une liberté narrative que vous affectionnez?
Bah oui, particulièrement. Alors c'est celle de la nouvelle vague en France, évidemment, mais c'est celle de tous ces objets qui nous conduisent pas sur les rails. Pour le coup, c'est le contraire, peut-être d'une certaine manière, de faire du romanesque en fabriquant des mécaniques bien huilées, bien vissées. Mais je dois dire que, comme lecteur, je suis toujours fasciné par cette liberté, j'allais dire liberté grande, que peut prendre un écrivain ou un cinéaste quand tout d'un coup il est capable de nous emmener par autre chose que par l'intrigue au fond. Et là, dans Le Petit Fugitif, c'est vrai qu'on suit la déambulation gratuite, capricieuse, l'errance vraiment d'un petit enfant dans New York et dans un parc d'attractions. Et que la formule du critique, je la trouve vraiment très juste, oui, abandonner son scénario en cours de route.
En ce qui concerne l'aspect formel, vous avez parfois emprunté au cinéma pour la narration Tanguy Viel. Et je voulais savoir, est-ce que le cinéma avait toujours autant d'importance dans votre narration maintenant que vous avez de meilleurs rapports avec le réel?
Oui, j'ai moins besoin du cinéma comme préfiguration mentale, si vous voulez, avant de me mettre à écrire. Après, comme ça, au fil des années, quand même, ça s'est bien déposé. Depuis que je continue à regarder beaucoup, beaucoup de films, je pense que malgré tout, il y a une grammaire que j'ai complètement intégrée, qui fait que, au fond, faire une phrase, faire un paragraphe, c'est quand même faire un plan. Alors un plan avec de la vie intérieure, c'est ça. Donc le cinéma continue, mais oui, il est peut-être moins médiateur pour accéder au monde, pour moi.
Vous avez coécrit L'Innocent avec Louis Garrel et je crois que vous avez un nouveau projet de film ensemble.
Oui, oui, on y travaille.
Vous pouvez en dire un mot ou c'est encore secret?
Enfin, c'est-à-dire que c'est surtout très...
Inachevé.
Inachevé, oui, c'est ça. Enfin, j'ai rendu une première version aujourd'hui même à Louis, mais je sais pas, il a peut-être téléphoné, mais c'était pendant l'émission,
ah bah là, oui.
Je peux pas savoir.
Bah non. Et alors, il paraît que vous avez aussi écrit un développement pour une série.
Je suis en train de à partir d'un fait divers cette fois, ouais. Bon, mais là aussi c'est le début du travail, c'est difficile d'en dire plus, mais ça, c'est d'autres espaces narratifs qui sont assez amusants et beaucoup plus, pour moi, plus légers parce qu'il y a pas la tension qu'implique le roman pour l'instant. En tout cas, je le vis pas comme ça parce que peut-être je suis juste scénariste et j'ai pas l'œuvre à porter, si je puis dire.
Justement, en parlant d'œuvres à porter, vient de reparaître en poche cet homme-là dans la collection double des éditions de Minuit. C'est tout simplement l'histoire de Jésus. Elle vous a été inspirée, Tanguy Viel, par les artistes peintres et sculpteurs qui, eux, ont déjà un sujet, contrairement au romancier qui doit tout fabriquer. Vous avez suivi l'histoire de la Bible ou vous avez imaginé des choses?
Non, j'ai vraiment décidé de raconter une histoire, une vie de Jésus, en prenant toutes les scènes archétypales de l'Évangile, les scènes canoniques, comme on dit, et comme ces scènes canoniques ont servi toute la peinture, principalement italienne, mais disons européenne de la Renaissance. En fait, moi, je me suis servi cette fois non plus du cinéma, mais de la peinture comme médiateur pour accéder à ce monde de légende, parce qu'au fond, évidemment, il y a cette source historique qui est très ténue, qui est l'Évangile, et puis ce qu'on sait de réel, donc je me suis documenté beaucoup, mais après j'ai laissé passer le filtre de cette légende, enfin plutôt j'ai utilisé la peinture comme filtre, pour essayer de... Enfin c'est une peinture en mouvement quand même, ce sont des scènes qui reprennent... En fait c'est un évangile, j'ai juste écrit un évangile de plus, mais qui est... voilà, ouais, tout simplement.
Que diriez-vous à Jésus si vous le rencontriez? Il est là ce soir, justement.
Vite, en fait quelque chose.
Ah ouais. Alors, j'ai cru comprendre que vous faisiez un ciné-club dans votre village.
Oui.
Oui.
Oui, absolument.
Quel est le premier film que vous avez projeté?
Mais c'était, on a commencé il y a pas très longtemps et on a projeté La Nuit du Chasseur à Beaugency.
Have you planned your vacation yet? I have just made a motion picture, North by Northwest. To show you some of these delights. And the ideal place to start our holiday fun trip is New York, where Cary Grant can go places and do things. You don't find a tasteful little murder on every guided tour, now do you? But this means we must leave Manhattan.
Hello there.
Tell me, why are you so good to me?
Shall I climb up and tell you why?
La bande-annonce de La mort aux trousses d'Hitchcock, sortie en 59 dans Guy Viel. Vous affectionnez énormément Hitchcock, vous avez vu tous ses films. Vous y cherchiez même à un moment le secret de l'intrigue parfaite. L'avez-vous trouvé?
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs films d'Hitchcock qui ont des intrigues parfaites, dont d'ailleurs La mort aux trousses qu'on vient d'entendre, mais aussi Les Enchaînés, aussi bon, le film de tous les films, Vertigo. Bien sûr. Et moi, ce que je rêvais à un moment, c'était de faire un livre qui serait une sorte de compression de toutes les intrigues d'Hitchcock, dans une sorte de... ce qui est complètement absurde. Mais bon, il faut bien avoir des graals.
Oui, pourquoi pas. Et oui. Je crois que ce film, vous allez le projeter.
Absolument, le jeudi 4 avril, au Ciné-Club de Beaugency.
Bien, écoutez, peut-être aurez-vous une surprise. J'aimerais que... Je regarde l'horloge, évidemment. Je sais qu'il ne faut pas le rappeler, mais ce sont les coulisses. J'aimerais que vous nous parliez de Marc-Antoine Julien, votre ennemi théorique. Et en lisant Vivarium, je l'ai découvert grâce à vous, Tanguy Viel, et je me suis procuré le livre. Vous voulez que je vous cite le titre exact? Parce qu'il est très très long.
Oui.
Essai sur l'emploi du temps ou méthode qui a pour objet de bien régler sa vie, premier moyen d'être heureux, destiné spécialement à l'usage des jeunes gens de 15 à 25 ans.
Oui. Mais c'est vrai que Marc-Antoine Julien, c'est vraiment une figure du 19e siècle, du grand moment qu'on appellerait positiviste, en fait, du rationalisme, qui peut d'ailleurs s'ancrer aussi bien à gauche qu'à droite sur les questions politiques, parce que ce qui compte, c'était le fantasme de la maîtrise et du contrôle de, non seulement du fonctionnement de la société, mais aussi du fonctionnement de sa propre existence. Et ce Marc-Antoine Julien a inventé ce système de biomètre qui consistait à mesurer chaque heure de sa vie, qu'est-ce qu'on en a fait, combien elle vaut, dans une espèce de folie un peu utilitariste, où il n'y avait pas de temps pour la poésie, pour le dire vite. C'est en ce sens que, évidemment, je peux en faire mon ennemi théorique.
On peut le retrouver dans Vivarium et il me reste 10 secondes pour reprendre une citation de Keats que vous aimez, Tanguy Viel, une chose de beauté est une joie éternelle, et vous demander la dernière chose de beauté que vous avez vue.
La dernière chose de beauté, je pense que c'était ce qui me vient, c'était avant-hier sur mon vélo, quand il faisait encore beau à Paris, là, la Seine avec le bateau-bus qui passait sous le pont Neuf.
Merci Tanguy Viel. Votre livre Vivarium est paru aux éditions de Minuit et voici les rencontres et dédicaces à venir. Demain, mercredi 27 mars à 18h à la librairie Les Cahiers de Colette à Paris. Le 3 avril à la librairie Comment Dire à Rennes. Le 16 à la librairie La Galerne au Havre. Le 17 au Square à Grenoble. Le 19 au Chaki d'Or à Beaugency. Le 24 à 19h à la Maison de la Poésie à Paris. Le 25 à la librairie Mille Pages à Vincennes. Et le 28 mai à la librairie Dialogue à Brest. À signaler aussi la réédition en poche de cet homme-là dans la collection double aux éditions de Minuit. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Florian Doremini.